Le musée de Bourgoin-Jallieu, pour le situer, à l'origine, lors de sa création en 1929, c'est un musée de beaux-arts qui va devenir, à la mort de l'un de ses fondateurs, le peintre Victor Charton, va devenir, à partir de 1936 jusque dans les années, 90, un musée pluridisciplinaire. Donc on va trouver de l'archéologie, du militariat, toutes sortes des outils agricoles, enfin toutes sortes de pièces. Sur notre territoire, il y avait un écomusée, l'écomusée Nord-Dauphiné, qui a fermé ses portes dans le courant des années 90 et qui avait eu pour mission à l'époque d'étudier le territoire du Nord-Dauphiné au moment de la création de la ville nouvelle. Et donc pas mal d'entreprises étaient implantées sur ce territoire, textile, mais pas que. Il y a un très très gros pôle logistique. Il y avait encore des papeteries, cartonneries à l'époque, fonderies. Et lorsque cet écomusée a fermé ses portes, s'est posée aussi la question du devenir de ce musée. Savoir, est-ce qu'on reste un musée pluridisciplinaire ou bien est-ce qu'il est développé avec de nouvelles orientations, à savoir le textile ? Il faut savoir que dans les années, fin des années 60, années 70, débute une crise importante et qui va devenir récurrente du textile, notamment le domaine de l'ennoblissement. Et les entreprises bergaliennes, quelle que soit leur taille et leur ancienneté, vont être très fortement impactées et vont fermer les unes après les autres. Donc dans le courant des années 80, les entreprises prennent conscience, du moins un certain nombre d'entre elles, de l'intérêt de leur patrimoine et de leur métier, et vont commencer à donner des éléments de leur production et un peu d'outillage au musée de Bourgoin-Jallieu, qui, lui, à partir des années 95, de 1995 jusqu'à 2000, va connaître 5 ans de travaux pour l'agrandir, le rénover et lui donner très clairement une orientation textile. C'est ce que le parcours permanent vous montre aujourd'hui, et les expositions temporaires sont essentiellement tournées vers ce domaine, que ce soit à travers la technique, la mode, la création contemporaine, donc toutes sortes de domaines, puisqu'il nous permet d'avoir une approche assez large. Le choix, bien évidemment, en 1995, en donnant cette orientation, les collections étaient insuffisantes. On était vraiment dans une période où tout risquait de disparaître. Hourra, ça marche. Et donc une collecte va être entreprise aussi bien auprès de la population et des particuliers que auprès des entreprises. Donc voilà le musée tel qu'il était avant sa rénovation, dans une chapelle. Voilà ce qu'il est aujourd'hui. Donc vous n'avez pas la vision totale. La chapelle est à gauche sur la diapositive. Et donc ici, c'est un ancien hôtel-dieu qui date du XVIIIe siècle. Donc je ne vais pas reprendre ce que je vous ai dit. Alors, dans le même temps, comme je vous le disais, une collecte sur très large sur le territoire où le matériel a afflué pendant quelques années et qu'il a fallu traiter tant bien que mal. Donc on a repris ce travail de façon beaucoup plus poussée depuis 3-4 ans. Et également, dans le même temps, il y avait des relations très étroites qui s'étaient nouées avec les entreprises du secteur qui étaient encore en pleine activité. Donc là, vous avez quelques noms cités. L'entreprise Mermoz qui a fermé ses portes et qui a été liquidée en 2004, qui était la dernière grande entreprise d'ennoblissement d'impression sur étoffe qui était implantée à Bourgoin. Piola Georges, qui travaillait aussi pour le haut de gamme et qui était photograveur. La CIB, Société d'impression bergalienne, qui était également une entreprise d'impression qui a, non pas fermé, mais été rachetée par Hermès dans les années 2000 et qui a été en 2004 rapatriée, si je puis dire, au sein des ateliers de Pierre Bénite d'une part et du Grand Lens d'autre part. Donc il n'y a plus rien à Bourgoin. Et un certain nombre d'ateliers de photogravure qui ont également fermé leurs portes entre, je dirais, 2005 et maintenant. Donc cet aspect du textile, qui est plutôt le textile traditionnel, aujourd'hui réservé au luxe, c'est un petit élément qui subsiste en Orisère, avec quelques ateliers de photogravure à Bourgoin et deux entreprises d'impression, la Siègle et la société d'impression de Gilonnet à Gilonnet. Donc, outre à l'occasion de ces fermetures d'entreprises, on a essayé tant bien que mal d'être vigilant, mais les entreprises ne sont pas toujours sensibles à leur histoire, et puis la fermeture, c'est quelque chose de douloureux. Parfois, elles ont tendance aussi à faire table rase en pensant « c'est fini, on détruit tout, on garde deux, trois choses » et elles n'ont souvent pas le réflexe archive, qu'elle soit départementale ou municipale, et pas le réflexe non plus musée. Pour eux, le musée, c'est quelque chose de mort et l'entreprise, c'était quelque chose de vivant. Alors nous, on essaye un peu de montrer que le musée n'est pas quelque chose de mort, puisqu'on va s'intéresser au textile depuis ses origines, ou, enfin, on va dire chez nous, c'est le XVIIIe siècle, jusqu'à aujourd'hui, puisque nous essayons de montrer aussi ce qui se fait aujourd'hui dans le domaine du textile. Donc chaque fois qu'il y a fermeture, nous nous rapprochons, quand nous pouvons, de l'entreprise pour essayer, avec les archives municipales, de sauver les archives administratives, les archives textiles, bien évidemment. Alors pour moi, archives textiles, c'est des dossiers de clients, mais ce sont aussi des rebraques, des échantillons, du matériel. On récupère des machines, de l'outillage, et puis nous travaillons avec des bénévoles, des anciens de l'entreprise. Ici, vous voyez un métier de l'entreprise Diedrich. On a nos bénévoles qui travaillent dessus, mais ce sont eux qui les ont remontés, installés et qui les entretiennent au musée. Et qui sont, alors là, on est dans une entreprise des retouches sur des rouleaux destinés aux rotatives. Donc, comme je vous le disais, Mermoz, nous avons pu faire un travail en amont au moment de la fermeture, donc avec le liquidateur, ça n'a pas été très simple, pour à la fois pouvoir récupérer les archives, qu'elles ne soient pas bénées purement et simplement, et nous avons travaillé avec l'archiviste dans des conditions parfois difficiles, équipe du musée et archiviste de la ville, pour récupérer un maximum de choses. Donc je vous ai mis 7 tonnes, je ne sais plus si c'est 7 ou 12 tonnes. Nous étions à l'époque 6 au musée. Donc je ne sais pas si vous visualisez ce que ça peut représenter. Je vous ai mis quelques vues de l'entreprise, les ateliers abandonnés, il y avait encore des choses sur table. Ça, c'est le bureau des coloristes, les dossiers des clients, tout ce qu'on a pu récupérer. Certains clients ont voulu récupérer leurs dossiers, mais ce sont des armoires pleines. Ce qu'on trouvait aussi dans les bureaux, des échantillons, des textiles qu'ils avaient achetés en se disant on en fera quelque chose. Alors en vrac, dans des valises, dans des meubles, les rebraques, les dossiers, il y en avait partout. Ce sont des milliers de documents, un peu de mobilier. Là, vous avez, on a pu acheter aussi cette table de coupe, des registres qu'on retrouvait un peu partout. Des rouleaux de tissu, on a pu en récupérer énormément, soit pour nos besoins personnels, comme l'UNI, soit de la production de Mermoz. On en vend de temps en temps, mais on les valorise. Tout ce bâtiment était plein, on a dû tout déménager en catastrophe alors qu'il gelait à pierre fendre et qu'il y avait de la neige. Voilà ce qu'il y avait dans ce bâtiment, dans les boîtes, des milliers d'échantillons, des centaines d'échantillons. des registres de ce genre avec des centaines et des centaines d'empreintes, plein de dossiers dans tous ces casiers. Ensuite, PRB à Villeurbanne, on s'éloigne un peu de notre territoire, mais tout est lié, qui était aussi une entreprise d'impression et qui a vendu progressivement son patrimoine puisqu'il ne l'exploitait plus. On a commencé par acheter des planches d'impression, puis des empreintes, des registres, des documents. Il y a eu des dons faits par l'entreprise et là encore, travaille avec l'archiviste de la ville. Là, on a pu faire des campagnes photographiques et collecter un peu de matériel et d'outillage avant que les bâtiments ne soient détruits, puisque sur le plan du bâti, là, on est plutôt devant un constat d'échec sur notre territoire. Les bâtiments industriels ne sont pas reconnus et sont détruits, malgré la qualité de certains d'entre eux. Il faut dire aussi qu'on a une très forte pression foncière du fait de la proximité de Lyon. Et puis, des tentatives pour élargir notre activité et notre collecte de matériel et de documents textiles vers les textiles techniques et fonctionnels, puisque c'est une activité majeure aujourd'hui en Orisère, en Rhône-Alpes, mais en particulier en Orisère, avec une grande exposition qui avait été menée avec le musée d'art et d'industrie de Saint-Étienne, textile du XXIe siècle. Et qui nous a permis de nouer des contacts et de collecter un peu de matériel, d'objets, d'échantillons. Mais ça reste difficile, puisque toutes ces entreprises sont dans une logique de production et non pas dans une logique de conservation, de mémoire et d'histoire. Donc la place du musée est toujours un petit peu ambiguë, difficile là au milieu. Et puis que garder ? Vu le pléthore, la foison des productions, mais aussi que garder en matériel, vu le volume, le poids du matériel. Là aussi, c'est extrêmement difficile. Donc, vous avez un petit exemple de ce qu'on pouvait présenter. Alors, ça, on a acheté la tente camouflage qui a été imprimée avec le sac de couchage assorti. Je peux vous dire que j'ai eu énormément de succès quand je l'ai présenté en commission d'acquisition. Donc je finis sur des questions, mais c'est effectivement la question qui se pose aujourd'hui et qui revient à la première: quelle place pour nos musées et quel rôle aux côtés des entreprises ?